السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، نستأنف مدارستنا لكتاب شفاء العليل بشرح الآداب لأبي الوفاء بن عقيل، وقد وصلنا إلى ما يتعلق بسنن الفطرة. On est arrivé au chapitre qui concerne الفطرة. On avait juste commencé la dernière fois. On était arrivé à la parole du Mu'allif, rahimahullah ta'ala. Faslun wa asharatun min al-fitrah, khamsun fi al-ra'si wa khamsun fi al-jasadi, fallati fi al-ra'si al-madmadatu wa l'istinshaq. Donc on avait commencé par ça. C'est le chapitre où il dit, et 10 choses font partie de la fitrah, et les 5 qui relèvent de la tête, et on va voir ce que ça veut dire, inshallah, et 5 du corps. Il a dit, et celle de la tête, et il a cité al-madmadah et l'istinshaq, et on avait commencé à définir ce qu'étaient ces deux choses-là. Mais avant ça, il avait parlé des différents sens, ma'ani, kalimat, al-fitrah, et il avait dit, et c'est la parole qu'on devait retenir du dars précédent, il a dit, waqad fassara, pour les frères qui ont le livre, c'est page 69, waqad fassara aktharu ahli al-ilm al-fitrata fi hadha al-hadith anha sunnah. وجاء التصريح بذلك عند أبي عوانة في مستخرجه عشرة من السنة. Donc on avait rapporté différents sens du mot fitra, et on avait dit le sens à retenir ici, et c'est la manière dont l'explique la majorité des gens de science, c'est que le mot fitra a le sens de sunna, as-sunna. Mais attention, il a dit ici, et d'ailleurs comme preuve, c'est qu'il a été cité de manière explicite dans certains recueils de la sunna, asharatun, pas de la fitra, mais il a dit asharatun mina sunna. Donc ça indique que le mot fitra, il a le sens de sunna. Mais quand on parle de sunna ici, il dit, il attire notre attention sur un fait important, il dit wa idha fassarna al-fitrata bis-sunnati fala yanbaghi an yuhmal 'ala as-sunnati bil-ma'na alladhi yuqabilu bihi al-fard wal-wajib. بل أعم من ذلك وهي طريقة الأنبياء الذين أمرنا أن نقتدي بهم كما في قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم تقتدي فبهداهم مقتدي من سورة الأنعام. Donc qu'est-ce qu'il veut dire ici, Cheikh Arafat حفظه الله تعالى؟ Il dit, quand on explique le mot fitra comme étant la sunna, il ne convient pas de comprendre le mot sunna dans le sens de ce qui fait face à ce qui est obligatoire. Il a cité deux mots, c'est al-fard ou al-wajib, et on ne va pas rentrer dans la différence entre les deux mots, mais ici en français, on peut dire tout simplement ce qui est obligatoire. Parce que vous savez qu'il y a des choses qui sont obligatoires, il y a des choses qui sont du domaine du recommandé. Il a dit, ce n'est pas ça le sens qui est voulu ici. Quand on dit sunnah, que c'est en dessous du wajib et que c'est recommandé, ce n'est pas ça le sens. Ici, le sens, il est plus large. C'est-à-dire, tariqatul anbiya, c'est la voie, la méthodologie de manière générale des prophètes, auxquels il nous a été ordonné ou desquels il nous a été ordonné de prendre pour modèle. Et puis il a cité le fameux verset qu'on a cité dans le dars précédent, surat l'An'am, verset 90. Donc maintenant qu'on a rappelé le mot fitra, on avait parlé de, il a dit khamsun fil jasadi fallati fi ra'si al-madmadatu wa l'istinshaq. Il a dit les deux premières qu'il a citées, c'est le madmadah et l'istinshaq. On avait expliqué ce que c'était. On était arrivé, je ne sais pas si vous vous souvenez, au hadith de l'Aqid ibn Sabira, page 71 pour ceux qui ont le livre. Et c'était la partie où on avait parlé de est-ce que le madmada et le sinchar, ce sont des furud. Elle a dit وَدَهَبَتِ الْحَنَابِلَةُ إِلَى فَرْضِيَةِ الْمَرْمَدَةِ وَالْسِنْشَقِ فِي الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ لأن الأنف والفم من الوجه فيكون دليلهما هو دليل غسل الوجه. Donc on avait rapporté différents avis et on avait dit d'abord qu'اختلف العلماء والفقهاء على أقوال ثلاثة في المضمضة والاستنشاق. On avait dit qu'il y a trois avis chez les gens du fiqh, les gens de la science du fiqh, sur ce qui concerne la madmada. On avait expliqué c'est le fait de rentrer l'eau dans la bouche, hein, et on appelait ça le madmada parce que tu fais un certain bruit en nettoyant ta bouche. Et l'istinshaq, c'est le fait de faire rentrer l'eau dans les narines. Et puis on avait, ce dont on va parler aujourd'hui encore, c'est l'istinthar, c'est le fait de sortir l'eau des narines. Et donc, il dit, فأكثر أهل العلم يرون أنها سنة في الوضوء والغسل. La majorité des gens de science voient que ces deux choses-là sont une sunna dans les ablutions et dans le lavage rituel. Pourquoi ceux qui ont cet avis-là, ils disent car le madmada et l'istinshaq lam yati dhikruhuma fi ayat al-wudu de sourate al-Maïda, le verset 6. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été cités dans le verset qui a trait aux ablutions. D'accord? Et ils ont aussi utilisé comme preuve, comme argument, wastadallu bi hadith al-bab, le hadith qu'on est en train d'étudier justement aussi, c'est ashrun min al-fitra. فَحَامَلُوا لَفْضَ الْفِطْرَةِ عَلَى السُنَّةِ الَّتِي تُقَابِلُوا الْفَرْضِ. Eux, ils ont compris le mot « fitra » ici dans le sens « sunna » qui est en face du « wajib ». Alors que nous, on a dit c'est quoi? C'est plus large tout à l'heure. Par contre, le Hanabila, ils ont dit que c'est un « fard », que c'est pour le « madmada » et l'istinshaq, dans le « ghusl » et dans le « wudu », dans le lavage rituel et dans les ablutions. Pourquoi? C'est quoi la... qui les a poussés à avoir cet avis-là? Ils ont dit « anna al-anf wal-fam min al-wajh ». Mais justement parce que le madmada, ça a trait à la bouche, et le stinchar, ça a trait au nez. Or, la bouche et le nez font partie du visage. « Fiyakunu daliluhuma wa dalilu ghusli al-wajhi ». Donc, leur preuve, c'est la preuve du visage, puisque la bouche et le nez et les narines font partie du visage. « Wa fi hadithi Abi Hurayrata radiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa sallam » إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر. Et il y a le hadith de Abu Huraira qu'on avait cité dans le verset précédent. Lorsque l'un d'entre vous fait ses ablutions, il y a un verbe impératif ici, فليستنشق, qu'il fasse l'istinchar, c'est-à-dire qu'il fasse rentrer l'eau dans ses narines. بمنخريه من الماء, dans ses narines, et qu'il fasse rentrer l'eau من الماء ثم لينتثر, et puis qu'il fasse sortir. Et donc ici, c'est de quoi? C'est, quand vous regardez, c'est l'istinchaq, c'est un verbe impératif. Fait l'amr en langue arabe. Fait l'istinchaq. Ou l'aslu fil amr, anu yaqtadi al-wujub. La règle dans usul fiqh, c'est l'amr yaqtadi al-wujub illa ida surifa bi sarifin illa l'istihbab. Donc c'est que, même pour les frères qui n'ont pas beaucoup de notions de langue arabe et de grammaire, ils peuvent comprendre en français quand tu as un ordre, un verbe impératif. Ben ici en arabe, ça s'appelle amr. C'est un ordre. Fi'l amr, un verbe impératif. Et la règle dans les usul fiqh, c'est quand il y a un verbe impératif, c'est que ça implique une obligation. Sauf s'il y a une preuve qui fait basculer cette obligation vers quelque chose de recommandé. Donc c'est-à-dire que s'il n'y a pas de preuve, ça reste sur la base que c'est obligatoire. D'accord? C'est ce qu'il dit ici. Il dit wal aslu fil amri annahu yaqtadi al-wujub. La base et l'origine dans l'impératif et l'ordre. Eh bien, c'est que cela indique une obligation. Ou fi hadith laqiti ibn Sabirata, et c'est là qu'on s'est arrêté la fois passée. Dans le hadith laqiti ibn Sabira, radiallahu anhu, قال له صلى الله عليه وسلم, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit à laqiti, asbighi al-wudu, wa khalli bayna al-asabi' wa balighi fi al-istinshaq illa an takuna sa'ima. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit asbighi al-wudu. Alors l'isbar fil wudu, on peut traduire ça de manière très simple en disant que c'est donner à chaque membre des ablutions son droit et sa complétion, c'est-à-dire de bien faire les ablutions, de bien s'attacher à chaque membre des ablutions, comme cela. Wa khalil bayna al asabi'. La table de mixage, le fouquet, la table, elle a dit que ça fait. Wa klofik, elle a tenu. Wa khalil ben al-asabi'. Ici, le khalil ben al-asabi'. C'est le fait de séparer entre les doigts et de faire passer l'eau. Wa balir fil stinchar illa an takuna sa'iman. Et fait bien rentrer l'eau dans les narines, pas d'exagérer, mais faire. C'est-à-dire, il y a une moubala rafi. Fil ma'na et fil fi'l, c'est-à-dire que tu fais bien rentrer, illa an takuna sa'iman, sauf quand tu es en état de jeûne, et justement pour éviter ce qu'il faut éviter. Ce hadith ici, vous avez le tahrij en bas si vous voulez regarder, inshallah, il est rapporté par Shafi'i dans l'Umm et d'autres, Abdur Razzaq, Ibn Sa'd, Ibn Abi Shayba, Ahmed, Al-Bukhari, fil Adab Mufrad, Ibn Majah, Abu Dawud, Tirmidhi, Tabarani, Al-Hakim, Al-Bayhaqi. Wa fi riwayatin qala, wa idha tawadda Tawadda'ta fa madmid. Et donc ici encore une fois un verbe quoi ? Impératif par rapport à madmada. Donc on avait dans le hadith précédent un verbe impératif pour l'istinchar. Ici on a un verbe impératif pour le madmada. Et donc ça c'est parmi les preuves de ceux qui disent que c'est obligatoire. Fa amarahu bil madmadati wa l'istinchar. Il a donc ordonné ces deux choses-là. Amma l'istinthar, maintenant c'est la nouvelle matière, on a fini de revoir ce qu'on a fait la fois passée. وأما الاستنثار فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فلينتثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit, et ça se concerne l'istinthar, on a dit que c'était le fait de faire sortir l'eau des narines. إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ. Si l'un d'entre vous, ou lorsque l'un d'entre vous se réveille de son sommeil, c'est-à-dire lorsqu'il se réveille et qu'il fait ses ablutions, فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا, qu'il fasse l'istinsar trois fois. Pourquoi ? Parce qu'il a donné l'illa, comme on dit, فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ, car le shaytan passe la nuit sur, à la base de son khayshoum, et on va revenir sur ce terme-là, al-khayshoum, inshallah. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فليستنثر. Les hadiths que je viens de citer et le précédent, ils sont tous les deux mutafaqun alayh dans le Bukhari ou Muslim. Donc ici encore une fois on a une indication par rapport à l'istinthar. والترتيب, quel est maintenant l'ordre à suivre par rapport à l'madmada, l'istinshaq, l'istinthar? Eh bien الترتيب أن يتمضمض ثم يستنشق. L'ordre à suivre, c'est d'abord de faire la madmada, c'est-à-dire le fait de rincer sa bouche, et ensuite de faire entrer l'eau dans les narines. وَيَأْخُدُ الْمَاءَ بِكَفٍ وَاحِدَةٍ. Alors, qu'est-ce qui est la sunna? Il est dit ici, il prend la main avec une seule paume. C'est-à-dire que tu fais le madmada l'istinshaq avec une prise d'eau avec la paume, en une fois. D'accord? وَلُوْ فَصَّلَ بين المضمضة والاستنشاق صح وضوءه. Mais si tu le fais pas comme ça, que tu fais d'abord la bouche et puis tu refais avec les narines, ton wudu il est correct. ولكن c'est quoi? وهو خلاف السنة. لكن ce n'est pas la sunna. ويستحب لمن أراد أن يستنشق أن يبالغ في الاستنشاق إلى أن يكون صائما. Il est recommandé pour celui qui fait l'istinshaq, c'est-à-dire qui rentre l'eau dans les narines, qu'il les fasse bien rentrer profondément. C'est ça qu'on veut dire ici. On a cité une exception faite, c'est de quand tu es en état de jeûne. Alors à ce moment-là, tu fais attention. D'accord ? ويستحب ايضا اذا اكل الانسان طعاما او شرابا لا سيما اللبن ان يتمضمض بعده. Il y a un autre endroit ou un autre moment, si vous voulez plutôt, où c'est mustahab de faire le madmada. Eh bien, c'est quand l'individu il mange une nourriture ou il boit quelque chose, surtout le laban. Pourquoi? Fi hadith Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam shariba labanan famadmada wa qala inna lahu dasaman. Le prophète a rien expliqué pourquoi. Quand le hadith Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a bu du laban et puis ensuite il a fait le madmada, c'est-à-dire il s'est rincé la bouche. Et il a dit, il a expliqué pourquoi. Il a dit car il y a un dasam. Si vous voulez l'adjectif en arabe, c'est dasimun. Dasim. C'est quoi le dasam? Donc l'adjectif qui est dérivé dasim. Dasam, c'est le lipide, la graisse. C'est-à-dire un corps gras, lipide, du laban. Et donc il convient à ce moment-là de se rincer la bouche. Si vous voulez le tahrij du hadith, c'est un hadith qui est dans le Bukhari ou Muslim, il est donc muttafaqun alayh. Wa fi 'am Khaybar salla an-nabiy sallam salat al-'asr thumma akala ba'da as-sawiq wa akala ma'a as-sahabah radiyallahu anhum fa tamadmada an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa madmada ma'ahu as-sahabah thumma salla al-maghrib wa lam yatawadda. Lors de l'année de Khaybar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prié la prière de l'Asr, puis il a mangé as-sawiq. Alors c'est quoi as-sawiq? C'est uklatun min qamhin ou sha'ir. Wa huwa yuqla 'ala an-nar thumma yutham. C'est-à-dire que c'est un repas, c'est une un plat, si vous voulez, un plat qui est préparé à base de blé ou d'orge qu'on frit. C'est frit, c'est une friture. Et qu'après, on frit, ensuite, on passe à la moulure. Et donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a mangé un peu de sawiq, ce qu'on vient de décrire. Et les sahaba, ils ont mangé avec lui. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la madmada. Et les sahaba aussi. Et il a prié le maghrib sans refaire ses ablutions. Les ulama, ils ont dit, les gens de science, que le fait de se rincer la bouche après avoir mangé de la nourriture fait partie des bienséances de manger, des bienséances de se nourrir. Et aussi parce que cela fait partie, ou c'est un genre de propreté qui est légiféré, comme le siwak, hein, le bâton que vous connaissez tous. Et alors pourquoi c'est une bonne chose de faire cela aussi? Eh bien, aussi pour que ce que, si tu as mangé et que tu as bu, ça ne te dérange pas, ça ne t'occupe pas l'esprit pendant la prière. D'accord, hein, c'est-à-dire que tu t'occupes à retirer, hein, de tes dents, que ça te dérange, etc., que ça t'enlève de ta concentration, ça t'occupe pendant la prière. Aussi, pour que ce qui serait éventuellement resté ne t'empêche pas de bien prononcer ce qu'il faut prononcer lors de ta récitation du Coran. Ça, il a dit ici, « وَيُعَثِّرُهُ مَا يَتَعَلَّقَ مِنْ ذَلِكَ بِأَسْنَانِهِ » ce qui serait resté attaché à ses dents. عن إقامة بعد حروف قراءته. Et aussi, une autre raison aussi, car il se peut que si cela reste dans la bouche et sur les dents, etc., que cela implique qu'il y ait un changement de l'odeur buccale, c'est-à-dire l'odeur de la bouche, et que donc la même personne est une mauvaise haleine. Si vous voulez une référence pour ça, pour voir un petit peu, c'est Sharh al-Bukhari ibn Battal et le Muntaqal al-Badi, ainsi que d'autres livres. Maintenant, on a parlé de la madmada, maintenant on parle de l'istinchar, l'istinthar, rentrer l'eau dans les narines et faire sortir cette eau des narines. Eh bien, c'est que cela repousse et cela fait sortir les saletés du nez. Yukhallisuka min al-mahat. Et ça se te débarrasse de l'mahat avec un pa. L'mahat en arabe, c'est le mucus. Le mucus. Wa yuhafidu ala nadafati al-minkhar wa al-ajza al-mukhatiyati fa hadhihi min al-fitra. Et donc cela te permet de préserver la propreté du minkhar, d'accord, de ta cloison nasale, ou l'ajza al-mukhatiya, et des zones muqueuses. On a dit le mahat et le mucus, donc l'ajza al-mukhatiya, c'est quoi? C'est les zones muqueuses. Ou le mahatiya. Fahadi min al-fitra, tout ceci fait partie de la fitra, et c'est justement le sujet du cours d'aujourd'hui. Wa qad dakara jam'an at-tibba wa al-hudhaq fawa'id al-istinshaq wa al-istinthar fi buhuth wa kitabat manshura. Pour ceux qui veulent avoir plus de détails sur ces choses-là, eh bien, il dit, le Cheikh Hafidahullah Ta'ala, Cheikh Arafat ici, qu'un certain nombre de savants, de docteurs et de spécialistes, experts, concernant les bienfaits de l'istinchar, l'istinthar, ils ont écrit, ils ont fait des recherches, ils ont écrit des articles scientifiques, ainsi que des livrets et autres, etc., qui sont publiés si vous voulez y revenir. Maintenant, on a parlé de, on en a cité deux. Hein, on a dit quoi? On revient au texte de Moussanif Rahimahullah Ta'ala. Al-Madmadah et l'Istinshaq. Ça, c'est deux de la tête. Maintenant, on continue. On parle du troisième, c'est Siwak. Il dit Was-Siwak. Hein, قال Moussanif Rahimahullah, Was-Siwak. Et le Siwak. C'est-à-dire qu'il y a un atf, c'est une coordination. Il dit Al-Madmadatu, Wal-Istinshaq, Was-Siwak. Al-Madmadah et l'Istinshaq et le Siwak. Donc, le troisième, c'est le Siwak. Et ici, il dit, le Cheikh Arafat, il dit, « As-siwak wa alatun yastaku bihal mar'a » وهو سنة جاءت به النصوص وقد اتفق الفقهاء على أن السواك سنة وحسن إلا خلافا يتعلق بالصوم. Alors le siwak, c'est quelque chose que tu utilises, un instrument, si vous voulez, que tu utilises, que l'individu utilise, et c'est une sunna qui a été rapportée dans les textes. Et les fuqaha sont tous unanimes sur le fait que le siwak c'est sunna et que c'est une bonne chose, sauf une divergence concernant le jeûne, l'utiliser pendant la période de jeûne. Maintenant, si vous voyez en bas de page, il a fait un point linguistique sur le mot siwak. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle siwak? السواك لغة مشتق من ساك الشيء إذا دلكه وقيل من التساوك وهو التمايل وهو التمايل. Donc le siwak, dans le sens linguistique du terme, c'est tiré de من ساك الشيء إذا دلكه. C'est le fait de frotter, masser. Le verbe dalaka, dalk, vous connaissez sûrement même en dalian, on dit dlk. C'est le fait de masser, de frotter quelque chose. Quand on dit dlk, une crème par exemple, ou quelque chose comme ça. D'accord? Donc le fait de frotter, masser, c'est pour ça qu'on appelle ça siwak. Ou bien aussi, ils ont dit, il a un autre avis, c'est que c'est التساوك هو التمايل. التساوك, c'est التمايل, c'est-à-dire le balancement, l'oscillation. والسيواك اسم للعود الذي يدلك به الفم لإذهاب التغير ونحوه. Donc les ulama ont donné la définition du siwak, ils ont dit, c'est un nom pour le petit bout de bois qu'on utilise pour frotter ou masser la bouche afin de faire partir la mauvaise haleine ou autre. وكذلك يقال له المسواك. C'est aussi appelé, on dit siwak et on dit miswak. Les deux sont corrects. بكسر الميم, avec une kasra sur le mim. ويطلق على الاستعمال نفسه. Et on peut l'utiliser aussi pour l'acte. Donc on l'utilise pour le petit bâton, l'instrument, et on l'utilise aussi pour l'acte. وسمي بالسواك لكون الرجل يردد في فمه يحركه والسواك يذكر ويؤنث. C'est masculin et féminin. Et on dit ça aussi pourquoi? Parce que l'individu, comme on l'a dit, il de manière répétitive, il le fait rentrer, sortir, il le fait bouger dans sa bouche, etc. ويتأكد استحباب السواك عند الوضوء والصلاة. On a dit que c'était une sunna. Mais cette sunna devient encore plus forte. Il y a une insistance sur le côté recommandé de ce siwak quand, lors des ablutions et avant la prière. Quand il dit salat, évidemment, ce n'est pas pendant la prière, c'est avant la prière. Et il dit ici, voir marat al-ijma' al-tamhid. اختلاف الأئمة لابن أبي رتا والمغني والمجموع للنووي. C'est les livres qu'il a cités, c'est des livres qu'on appelle Mutawwala dans le fiqh. Comme par exemple, le Majmou' il est très grand, le Mughni il est très grand, c'est des livres avec beaucoup de volume, vous pouvez retourner à ce genre de masa'il. Alors comme on a expliqué dans la méthode du Talib al-Ilm, ce genre de livre-là, c'est pas un livre que tu vas étudier dès le début, le Tamhid, tu vas pas t'amuser, tu viens de commencer le fiqh et tu rentres dans le Tamhid, tu rentres dans le Majmou' al-Nawawi. Mais par contre, quand tu fais un dars avec un shir et qu'il te renvoie à cette source-là, c'est bien d'aller voir. Par exemple, ce qu'il a dit sur Siwak, justement, il t'a renvoyé pour voir sur Siwak, ça te donne beaucoup de fawaïd. Première chose, tu vas commencer à connaître ces livres-là. Tu vas aller, tu vas savoir chercher. Déjà, pour chercher le chapitre, il faut avoir l'habitude de ces livres-là, etc. D'accord? Donc ici, il a dit quoi? Il a dit, « Wa inda taghayyur al-fam. » Un autre endroit, c'est encore mieux, c'est plus recommandé aussi, c'est encore une fois quand la laine, elle change. L'odeur buccale, elle change. وعند الاستيقاظ والانتباه من النوم. Un autre moment aussi, c'est quand tu te réveilles du sommeil. C'est-à-dire quand tu dors, quand tu te réveilles, c'est très recommandé, c'est bien d'utiliser le siwak. وعند قراءة القرآن. Et avant de lire le Coran. قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit, si ce n'était de peur de mettre une difficulté à ma umma, c'est-à-dire que ça devienne obligatoire pour eux, eh bien, je leur ai ordonné d'utiliser le siwak pour chaque prière. Donc, ça vous voit le caractère fortement recommandé. Et justement, le prophète n'a pas voulu nous en donner ça, pour pas que ce soit une difficulté pour nous. Et ce hadith, il est rapporté par Al-Bukhari ou Al-Muslim. En fait, là, vous êtes dans une formulation de ce hadith, « عند كل وضوء » à chaque ablution. Et ça ici, c'est authentique et c'est rapporté par le Bukhari ta'liqan majzuman bih. ووصلوا أحمد وابن خزيمة وابن المنذر في الأوسط والطحاوي في شرح معاني الآثار والبيهقي. وقالت عائشة رضي الله عنها أن النبي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. Elle a dit, Aïcha, elle était très connaisseuse des habitudes du prophète Sassim, évidemment, lorsqu'il rentrait chez lui, puisqu'elle faisait partie de ses épouses, que le prophète Sassim, lorsqu'il rentrait chez lui, il commençait par utiliser le siwak. Ça, c'est rapporté par Muslim dans son authentique. Wa qala Hudayfa radiallahu anhu, kana sallallahu alayhi wa sallam, idha qamna al-layli yashousu. Yashousu, c'est un des termes qu'il utilise dans la sunna, pour indiquer le fait de rentrer le siwak dans la bouche et de nettoyer la bouche, etc. Il y a un chouso, fahu bis siwak, il nettoyait sa bouche avec le siwak. Quand? Lorsqu'il se levait la nuit. Et ça, c'est rapporté par le Bukhari au Muslim. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, as-siwaku mataharatun lil-fam, mardatun lil-rab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le siwak, c'est une purification pour la bouche. Et c'est une manière de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est rapporté par al-Bukhari, ta'liq al-majzuman bihi, et c'est wasalahu par Ahmed, rahimahullahu ta'ala wa rahmatullahi al-jami'a. Donc il a dit, wa akhiru amalin amalahu, alayhi salatu wa sallam, wa siwak. Pour montrer l'importance du siwak, la dernière action qu'a fait avant de décéder le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'utiliser le siwak. An Aisha radhiya Allah anha, قالت دير سي عائشة كي راكورت باسكو البروفيسور سمي لي ديسيدي دون لو جيرون دو عائشة رضي الله عنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي الا دي ك عائشة ك رضي الله عنها ك البروفيسور صلى الله عليه وسلم il est décédé dans sa demeure à elle et son jour à elle وبين سحري ونحري elle a décrit vraiment comment le prophète صلى الله عليه وسلم était sur elle quand il est mort عليه الصلاة والسلام. Sahri, c'est quoi? Sahri, c'est le dessus du ventre. Et Nahri, hein, elle a dit le haut de mon thorax. C'est-à-dire qu'il était contre elle. وكانت إحدانا تعوده بدعاء إذا مرض فذهبت أعوده. Ça, Cheikh Al-Masih Al-Abbad, il dit, on ne connaît pas la haqiqa de ce تعوده. فرفع رأسه إلى السماء. Il a levé sa tête vers le ciel. Il a dit, في الرفيق الأعلى, في الرفيق الأعلى. ومر عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده جريدة رطبة فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فنظننت أن له بها حاجة فأخذتها فمدغت رأسها ونفضتها فدفعتها إليه. C'est-à-dire que quelqu'un ici, c'est عبد الرحمن بن أبي بكر, il est rentré avec un petit quelque chose comme un bâton, etc. Et donc Aïcha l'a vu, elle a compris que le prophète صلى الله عليه وسلم le voulait, et donc elle l'a préparé pour lui, elle a mâché sa tête, hein, Elle a soufflé dessus et lui a donné, etc. Elle a préparé pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis elle a dit, فَاسْتَنَّ بِهَا كَأَحْسَنِ مَكَانَ مُسْتَنَّن. Hein, il a utilisé la siwak encore la meilleure manière qu'il faisait. ثُمَّ نَاوَلَنِيهَا فَسَقَّتَ يَدُهُ. Puis il lui a rendu ce siwak et puis sa main est tombée, c'est-à-dire qu'il est décédé alayhi salatu wa sallam. فَجَمَعَ اللَّهُ بِنَ رِيقِ وَرِيقِهِ. Et ça, c'est parmi le fada'il d'Aïcha radhiya anha qu'elle a dit, Allah a regrouper ma salive et sa salive fi akhir yawm min ad-dunya, le dernier jour de ce bas monde, wa awwal yawm min al-akhirah, et le premier jour de l'au-delà. Et Cheikh Al-Abbad l'explique, Cheikh Al-Masih Al-Abbad hafidhahullah ta'ala, il explique ce passage en disant que car quand quelqu'un meurt, c'est sa akhirah, c'est-à-dire qu'elle fait référence par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle a dit akhir yawm min ad-dunya, parce qu'elle a survécu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle parlait par rapport au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mort, et donc c'était ce dernier jour dans le dunya, et c'est le premier jour de sa akhira. Wa dhahabat ta'ifatun qalilatun min ahli al-'ilm ila wujub as-siwak. Un petit nombre de savants et de gens de science, ils ont dit que c'est wajib le siwak. Wa qul Ishaq ibn Rahawi wa Dawud adh-Dhahiri. Et c'est l'avis de Ishaq ibn Rahawi et de Dawud adh-Dhahiri. Yustahabu kadhalika lis-sa'im as-siwak fi an-nahar. Maintenant, on avait parlé de siwak pour celui qui jeûne. Qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, il est recommandé pour le jeûneur d'utiliser le siwak la journée, fi an-nahar, wa 'inda az-zawal, lors du zénith, wa ba'da az-zawal, après le zawal, wa 'inda al-ghurub, et au coucher du soleil, les hadiths, la amartum bis siwak inda kulli salah. Justement, le même hadith qu'on a utilisé précédemment, je l'aurais certes ordonné d'utiliser le siwak pour chaque prière ou à chaque prière. Fi riwayatin inda kulli wudu, à chaque, dans une formulation du hadith ou une version du hadith, à chaque ablution. Fi hadin al hadithain ibahatu siwak fi kulli al awqat. Il y a dans ces deux hadiths le fait qu'il est autorisé d'utiliser le siwak à tout moment. فَالصَّلَاةُ قَدْ تَجِبُ فِي أَكْثَرِ السَّاعَاتِ بِالْعَشِي وَالْهَجِيرِ وَالْغَدَوَاتِ وَقَدْ حَضَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السِّوَاكَ. La prière, elle peut être à différents temps. Le soir, le midi, les petits matins, parce qu'il y a différentes prières dans la journée. Et le prophète, صلى الله عليه وسلم, il a certes incité à utiliser le siwak. فَالسِّوَاكُ سُنَّةٌ لِلْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ. Donc, le siwak, c'est une sunnah, que ce soit pour l'asr ou le maghrib ou toute autre prière. Donc, il est donc, on comprend de quoi de cela, d'être autorisé d'utiliser le siwak quand on est en état de. En état de jeûne. Wa kariha al-Shafi'iyya wa al-Hanabila as-siwak lis-sa'imi ba'd zawal ash-shams. Shafi'iyya et al-Hanabila, ils ont dit que c'est détestable pour celui qui est sa'im d'utiliser le siwak après zawal ash-shams, après le zénith. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. Ils ont utilisé comme preuve le hadith qu'on a déjà cité, je pense, dans un des cours précédents, que le khulouf, on avait déjà expliqué, c'est le fait que la laine, elle change lorsque l'estomac est vide. C'est ça le khulouf, c'est-à-dire que la laine se fait mauvaise en raison du fait que l'estomac est vide. C'est écrit en bas d'ailleurs, تغير رائحة الفم من خلو المعدة. Et donc ils ont utilisé ce hadith, ils ont dit, écoutez, le hadith, il dit, la mauvaise haleine du jeûneur est meilleure auprès d'Allah que l'odeur du musc. Donc ils ont utilisé comme quoi, que ça, donc c'est détestable d'utiliser le siwak. Mais il y a une réponse qui a été faite par les ulama, et c'est la vie correcte, et ils ont répondu de trois manières. La première manière, l'ouajou l'awwal, bi'anna sabab l'ukhulouf khalou l'ma'idati min al-ta'am. Que la raison de la mauvaise haleine, c'est quoi? C'est le fait que l'estomac est vide. وَالسِّوَاكُ إِنَّمَا يُزِيلُ أَتَرَ الْخُلُوفِ الْمُنْعَقِدَ عَلَى الْأَسْنَانِ وَالْلِثَةِ. Or, le siwak, il ne retire que l'effet ou la conséquence de cette mauvaise haleine qui est sur les dents et les gencives. وَالسِّوَاكُ لَا يَمْنَعُ تِبْلُ الْخُلُوفِ الَّذِي يُزِيلُهُ السِّوَاكُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Le siwak, il n'empêche pas cette tib, cette bonne chose, de cette mauvaise haleine auprès d'Allah yom al-qiyama. Bal yati as-sa'im yom al-qiyama. Et de même, et encore plus, c'est que le sa'im, il vient le jour du jugement dernier, wa khulu famihi atabun al-misk, alors que sa mauvaise haleine de sa bouche est meilleure que le musc, alamatan ala siyamihi, en signe et en preuve de son jeûne. Et ce même s'il l'avait retiré avec le siwak. Ça, c'est une première manière de répondre à ça. Si vous voulez une référence, voir Zad al-Ma'ad, Fath al-Qadir. Fath al-Qadir, c'est de qui? Zad al-Ma'ad, vous connaissez? C'est qui Zad al-Ma'ad? Al-Qayyim et. Fath al-Qadir? Non? Shawkani, non? Quelqu'un l'a dit, j'ai entendu. Mais il l'a dit vraiment comme ça, non? C'est choquant, je me trompe. À la colline, il a dit ici le wajh athani, la deuxième manière de répondre à ça. An hada al-khuluf laysa fi ad-dunya inma huwa yawm al-qiyamah. Ce khuluf, cette mauvaise haleine dont on parle ici, qui est meilleur auprès d'Allah que le musc, c'est pas dans cette dunya, c'est yawm al-qiyamah, c'est le jour de la résurrection. Fas-sa'imu yaji'u ra'ihatu famihi athyab min rahiyati al-misk. Car le jeûneur viendra à ce moment-là en ayant une odeur buccale qui est meilleure que l'odeur du musc. Kama yaji'u al-maklumu fi sabilillahi ta'ala wa ra'ihatu damihi ka ra'ihati al-misk. Comme celui qui est blessé sur le sentier d'Allah, il viendra alors que l'odeur de son sang sera meilleure que l'odeur du musc. Ou sera comme l'odeur du musc. Wa innama dukira طيب الخلوف عند الله يوم القيامة حث منه على الصوم. Donc ce fait qu'on a cité que la bonté, le caractère bon et la bonne odeur de cette mauvaise haleine du Sa'im, elle était citée le jour de la résurrection afin d'inciter à jeûner. La hatan ala ibqa ra'iha. Et pas, c'est pas une incitation à garder la mauvaise haleine. Bel Sa'im ahwaju ila siwak min al muftir. Au contraire, le jeûneur a encore plus besoin du siwak que celui qui n'est pas en état de jeûne. Et la troisième manière de répondre à cela, l'ouajou thalith, بأن ربط الحكم بالزوال منتقد لأنه قد تحصل هذه الرائحة قبل الزوال. Vous avez compris que ce qu'on a dit que Shafi'i al-Hanabila, c'est qu'on leur a dit, ils ont dit que c'est détesté de l'utiliser avant quoi? On a dit quoi? Après le zawal. Ça? Et regardez comment il répond ici. Il dit que justement, le fait de lier le hukm à ce temps-là, le zawal, eh bien, c'est invalide. Pourquoi? Car cette mauvaise haleine, elle peut arriver même avant le zawal. Car cette mauvaise haleine, c'est quoi? C'est la conséquence du fait que l'estomac est vide. وإذا لم يتسحر الإنسان آخر الليل si la personne ne fait pas le suhur à la fin de la nuit فإن معدته ستخلو مبكرة. Son estomac, s'il ne fait pas le suhur, va être encore vide plus tôt. وهم لا يقولون, et ils disent pas متى وجدت الرائحة الكريهة كريهة السواك. Ils disent pas que hein, quand il y a une mauvaise haleine, et bien à ce moment-là le siwak est détestable. Donc ça, c'est les trois manières qu'on a vu de répondre à cet avis. Que, et donc en résumé, c'est quoi? C'est que c'est mustahab à tous les moments, même quand tu es jeûneur. Donc comme dit il me dit que le jeûneur est le moment qu'on plus peut être en besoin d'utiliser qu'autrui. On a dit toujours qu'on fait nos doros une demi-heure, 35 minutes. On a 36 minutes, on va s'arrêter là, inshallah. Et donc, jeudi prochain, c'est Ayam Tchariq. Donc il n'y a pas d'ars. Je suppose qu'il n'y aura pas les doros. Je ne crois pas qu'il y aura grand monde, de toute façon. Et la semaine d'après, jeudi, Inch'Allah, on reprend. Ce sera Qasso Sharibi, tout ce qui concerne la moustache, Inch'Allah. Ok ? Wa jazakum Allahu khairan. Wallahu a'lam wa subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.